Sacré, es-tu là? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous mille formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Jean-Louis Vullierme, qui se trouve être mon mari. Mais ce n'est pas à ce titre que j'interroge. Parmi d'autres choses, il est philosophe du politique, mais aussi de la religion. Et il aborde ces deux domaines en s'éclairant des sciences cognitives. Cette révolution de la pensée qui consiste à aborder d'un seul tenant le traitement de l'information chez l'homme, l'animal et la machine, en renversant les frontières que la philosophie avait érigées jusque-là entre des connaissances élevées et canoniques et des réalités qui paraissaient méprisables, ou du moins sans commune mesure. Jean-Louis est un de ceux qui présentent en l'occurrence l'homme et la religion comme des phénomènes cognitifs reliés à notre forme de vie, sans s'en tenir à la hiérarchie traditionnelle des facultés, comme la philosophie servant de la théologie ou des animaux qui ne pensent pas. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Natacha.
Comment vas-tu aujourd'hui?
En ce premier jour de grand confinement, je m'interroge. Et donc c'est une bonne chose de le faire en ta compagnie.
Quelle fut ta première expérience du sacré et quel rapport entretiens-tu avec lui?
Bon, tu sais, je suis né d'un père qui voulait être moine et d'une mère que les circonstances de la guerre avait éloigné de Dieu parce qu'elle considérait que Dieu s'était éloigné du monde. Et elle aurait aimé croire, mais elle ne pouvait pas. Et pourtant, à la fin des fins, mon père est devenu moine post-mortem, en quelque sorte, avec l'agrément de la communauté des moines de l'Hérens. Et comme les moines n'ont pas voulu séparer ce que Dieu avait uni, chose absolument extraordinaire, les deux sont enterrés ensemble, cendres mêlées, sous clôture, dans le plus ancien monastère, je crois, de France. Puis après, j'ai fait une grande partie de mes études, primaires, secondaires, dans des établissements religieux. Alors, quand on a mon caractère, c'est évidemment un remède qui conduit à se rebeller contre la religion. Ça a eu un temps, et puis après, j'ai découvert Blaise Pascal. Et alors, sur moi, il a presque réussi son projet, qui était de convaincre le libre penseur que la religion, le sacré, sont aimables, que ce serait une bonne chose si on pouvait s'en rapprocher. Et je me suis laissé convaincre par bon nombre de ces arguments. Alors, il restait quand même un problème, c'est que ces arguments valaient pour le sacré en général, mais pas pour une forme particulière d'abord du sacré, pour une religion particulière. Alors lui-même, à la fin, il s'en remet au miracle. Il dit que sans les miracles, il n'y aurait pas de différence entre Jésus et Mahomet. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais les miracles, ça pose un certain nombre de problèmes de validation cognitive. Et donc, je me retrouvais un peu vaguement attiré par la religion, sans la capacité d'entrer dedans. Et c'est finalement le Dalai Lama qui m'aura donné une bonne solution. J'avais à une de ses conférences, puis tout à coup, il y a un bonhomme qui lui dit « Sainteté, est-ce que vous pouvez me conseiller? J'aimerais devenir bouddhiste, et est-ce que vous pouvez me conseiller ?» Alors le Dalai Lama rit comme d'habitude, puis il lui dit « Monsieur, est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous êtes né ?» Et alors le type dit « Écoutez, moi je suis né à Ménilmontant. » Alors il dit « Ah, Ménilmontant, alors écoutez, moi, je suis né à Lhasa. Vous et moi creusons un même puits vers un même centre. Mais il n'est pas absolument exclu que, en creusant vous via Lhasa, vous ne fassiez pas un grand détour. » Et là, j'ai compris que effectivement, le sacré devait s'aborder de manière locale, mais qu'il n'était pas important de savoir de quelle façon ou à quel endroit. Nos héritages historiques, sociaux, personnels, nous donnent un point d'entrée, mais le but, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est reste l'universalisation. Voilà, donc j'ai fini par comprendre que le sacré était inévitable cognitivement, dans et même, ou en dehors des religions instituées. Le sacré, c'est tout simplement ce qui oppose au profane, ce qui s'oppose au profane. Comme le profane, c'est le domaine des choses qui peuvent être traitées par le raisonnement, par la volonté, qui peuvent être manipulées par une ingénierie. Et Dieu merci, il y a un énorme domaine profane. Mais Prométhée est toujours puni. C'est-à-dire que le volontarisme est dangereux quand il oublie ses limites. Voilà l'entrée que je me propose, moi, dans le sacré.
Tu es philosophe du politique et de l'histoire, auquel tu appliques une approche cognitive. Et tu as aussi écrit un opuscule sur la religion. Tu y distingues la croyance de la foi, au point que la croyance peut, même selon toi, devenir un obstacle à la foi. Comment comprendre cette opposition ?
Nous vivons dans une civilisation, c'est sans doute la première fois dans l'histoire humaine, où la religion est avant tout traitée comme un choix personnel, individuel, une décision qu'on prend ou qu'on ne prend pas, un acte évident aux uns, étranger aux autres. Or, du point de vue cognitif, je ne crois pas du tout que la question se pose en ces termes. En fait, nous possédons tous une faculté de traitement de notre rapport à la mort et à la finitude, qui ne se ramène ni à la théologie, ni à la philosophie, que nous pouvons nous efforcer de développer ou d'étouffer, mais qui est inévitablement présente en chacun de nous dès que nous faisons l'expérience de la finitude et de la mort des autres, puisqu'on ne fait l'expérience que de la mort des autres. Je lui donne le nom de conscience religieuse, bien qu'elle dépasse très largement l'institution religieuse proprement dite. L'athée, de ce fait, possède une faculté de traitement de son rapport à la mort et à la finitude, donc une conscience religieuse. Simplement, il ne croit pas, comme on dit, à un ou plusieurs dieux. Il sait qu'il est fini, que tout ce qu'il voit et aime autour de lui est voué à l'anéantissement, y compris l'univers physique tout entier, prenant la forme de divinité. Alors, parmi les athées, il y a ceux qui le nient purement et simplement, les autres, la grande majorité, sont agnostiques. Mais très souvent, leur approche est très voisine de celle des esprits religieux. L'athée aussi considère qu'il y a des choses infiniment précieuses qui doivent rester intangibles et même faire l'objet de tabous, par exemple les enfants, l'humanité en tant que telle, etc. D'ailleurs, les religions elles-mêmes, qui se présentent comme si distinctes, si opposées les unes aux autres, ont en réalité des messages très voisins, ou plutôt un seul, qui est « universalisez-vous ». Le judaïsme dit « identifie-toi à la communauté », mais la communauté juive, évidemment, pointe vers l'humanité tout entière. Le christianisme dit « aime ton prochain comme toi-même sans aucune limitation », c'est-à-dire c'est la totalité de l'humanité. « Universalisez-vous ici et maintenant ». Et le christianisme admet parfaitement qu'on puisse douter. On apprend par exemple que Mère Teresa, à un certain moment de sa vie, ne croyait pas. Elle ne croyait pas en Dieu. Et pourtant, c'est une sainte, enfin, au point de vue du christianisme. Elle est même doublement sainte, parce qu'elle n'attendait pas les récompenses de la religion, d'un au-delà. Elle s'universalisait ici et maintenant, en s'identifiant à l'enfant dont elle tenait la main au moment où il était en train de mourir. Simplement, elle disait, mais pourquoi la Providence ne vient pas sauver ses enfants ? En réalité, elle savait pourquoi. Parce que si la Providence sauvait tous les enfants, alors l'humanité ne serait pas l'humanité et le monde ne serait pas le monde. Le bouddhisme va encore plus loin. Il dit c'est le cosmos avec lequel il faut s'identifier. Mais toutes les religions disent la même chose. Alors, parmi ces religions, il y en a finalement assez peu qui invitent à croire à, ou qui exigent de croire à une sorte de barbu sur une sorte de nuage. Il y a même des religions qui n'acceptent aucune représentation du tout. Le judaïsme, par exemple, essaye d'abstraire la conceptualisation de Dieu pour ne pas le réduire. Et l'athéisme n'est jamais, après tout, qu'un refus d'une représentation anthropomorphique du sacré, sans être une dénégation du sacré. C'est finalement Pascal qui montre qu'il n'y a qu'une seule manière de nier le sacré. C'est de se divertir, c'est de ne pas y penser, c'est de s'agiter dans tous les sens, par des loisirs ou par des affaires, pour ne surtout pas envisager, aborder la question obsédante de notre rapport à la finitude et à la mort. Dans les religions, on distingue en général l'orthodoxie, le penser juste, de, pardon pour le mot savant, l'orthopraxie, c'est-à-dire l'action juste. Or, dans presque toutes les religions, l'orthopraxie, l'action juste, l'emporte sur l'orthodoxie. Il y a même des religions, comme la religion gréco-romaine, qui n'ont pas du tout d'orthodoxie. Elles ont oublié les conditions particulières de la négociation supposée du pacte avec les dieux. Ce qu'ils ont gardé, c'est les conséquences. C'est ce qu'il ne faut pas violer. Ce sont les rites à accomplir pour que les dieux ne se vengent pas sur les hommes. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, dans le cas de la religion gréco-romaine, qu'il y a énormément de représentations du divin, il y en a même extraordinairement nombreuses, qui s'apparentent, au point de s'apparenter à la poésie. Mais l'important, dans la plupart des religions, c'est l'action juste. La parabole du bon samaritain rassemble absolument toute cette pensée, c'est de dire, voilà quelqu'un qui n'a pas d'orthodoxie, par rapport à la communauté de référence, qui n'a pas d'orthopraxie par rapport à la communauté de référence, qui n'accomplit pas les rites justes, et qui pourtant accomplit l'acte juste par excellence, qui est de traiter son ennemi, son adversaire, comme s'il était soi-même. La bigoterie devient le pire des péchés, le plus redoutable, celui qui fait passer la croyance avant la foi. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'expliquerai cette opposition surprenante entre la croyance et la foi.
Aujourd'hui, nous traversons une pandémie de proportions bibliques qui nous contraint à penser au destin, au sacré. Y a-t-il, selon toi, des leçons pour nous à tirer dans ce domaine des circonstances inquiétantes que nous traversons ?
Oui, je crois qu'il y en a plusieurs. La première, c'est que les grandes catastrophes surgissent toutes adverses cessantes. Soudain, on est obligé de revoir nos façons d'agir, nos façons de penser de manière très radicale, de changer la hiérarchie de nos valeurs, exactement comme le requièrent les religions en l'absence des grandes catastrophes. Je me souviens que la peste noire avait multiplié l'iconographie des vanités. On dirait, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez être le plus riche du cimetière, le plus puissant du cimetière? Ou est-ce qu'il ne serait pas temps de vous dire que vous êtes autrui, que vous êtes ce mendiant, que vous êtes ce réfugié, sans trop vous demander longuement si le mendiant et le réfugié ne seraient pas quand même des voleurs dont il faudrait se débarrasser avant tout? Alors ça, c'est une première leçon. La deuxième est évidemment que la Terre est devenue notre pays. Notre pays au sens le plus premier du mot, c'est-à-dire notre village. Nous sommes en interaction permanente avec le reste de la Terre. Et tous les discours nationalistes, et je dirais même antimondialistes, n'y pourront rien. La Terre est une immense unité, est un immense village, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas à gérer localement une pensée globale, mais c'est absolument certain qu'aujourd'hui, qui n'a pas une pensée globale contribue à mener le monde à sa perte. La troisième, c'est que ceux qu'on n'ose plus aujourd'hui appeler les primitifs avaient quand même un peu raison. Moi, je les appelle les primitifs parce qu'ils cherchaient à se tenir au plus près de leurs origines. Ils pensaient que l'émergence d'une communauté humaine était un miracle fragile et qu'il ne fallait pas trop s'en éloigner. Il ne fallait pas faire trop d'essais et d'erreurs. Alors, Le rite était généralement pour eux la répétition du geste inaugural qui avait présidé à l'émergence de la communauté, et c'est pour ça que le rite devait être suivi scrupuleusement. Alors nous n'allons pas être primitifs en sens, parce que nous avons compris qu'il y a aussi un bienfait aux essais, aux erreurs. Il y a la médecine, il y a la capacité de nourrir les gens, il y a la capacité de les soigner. Alors, il faudrait que nous apprenions à être de sortes de primitifs high-tech, des primitifs qui sachent insérer notre rationalité, notre ingénierie dans des limites que nous devons à chaque fois réexplorer, redéterminer. Il nous faut par exemple un écologisme qui fasse une place aux sciences, qui se méfie de la décroissance, parce que la décroissance, elle entraîne des morts, qu'on le veuille ou non. Le malthusianisme, c'est dangereux. Donc même l'écologie, ce n'est pas simplement que nous voulons dire « Ah bah du coup, il y a des catastrophes, donc il faut qu'on soit écologiste ». Il faut nous demander comment être écologiste, et il y a sans doute des bonnes et des mauvaises manières de l'être. Il y aura un avant et un après de la catastrophe. Il faudra que nous trions parmi nos habitudes celles que nous croyions avoir être complètement sacrées, immuables, et ce qui ne le méritait pas, et toutes ces choses que nous avions désacralisées et qui mériteraient en fait d'être resacralisées. On pense à la vie, à l'autre, à la planète, à l'étranger. Nous allons devoir revoir un certain nombre de nos façons de vivre, de nous transporter, de communiquer avec l'autre, qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir changer, et qui maintenant nous apparaissent instantanément nécessaires. En politique, par ailleurs, on était très attachés, même les plus mondialistes étaient attachés à des petites souverainetés. Nous acceptions que des décisions soient prises à des échelles qui n'avaient pas la taille critique. Mais c'était une folie. On avait dit, par exemple, en Europe, seuls les États vont s'occuper des affaires sanitaires. Occupez-vous seulement de la surveillance. Ne vous occupez pas du stockage, des médicaments, des produits de santé. Ne vous occupez pas d'avoir une force d'intervention sanitaire de masse. Nous ferons ça très bien, chacun de nous, dans notre souveraineté. Et a fortiori, nous avions dit à l'ONU, « Oh, tu as déjà l'OMS, c'est bien, tu nous avertiras, tu vas concentrer les informations. » Mais il n'a jamais été question de donner à l'OMS une véritable forme d'intervention, parce que nos souverainetés, nous les avions sacralisées, alors qu'il est urgent, précisément, de les désacraliser. Et qui va le faire? Qui va désacraliser? C'est nous, c'est le citoyen qui va contraindre les hommes politiques, progressivement, à se désagripper de ce qui faisait leur quotidien pour enfin voir les choses à l'échelle propre des événements. Puis alors, il y a une toute petite autre leçon que je tirerais, c'est les limites du transhumanisme. L'idée que le second principe de la thermodynamique insère l'univers tout entier sous un principe qui conduit à la mort, à l'anéantissement et à la disparition. Alors, si le transhumanisme consiste à soigner les gens, fort bien, c'est la médecine. Si le transhumanisme consiste à ce que les uns se dotent de capacités extraordinaires pour échapper à la condition humaine, alors là, cette tentative, elle est vaine, mais surtout, les moyens employés pour y parvenir peuvent être extrêmement dangereux. Voilà, en gros, ce que ça, au brûle-pourpoint, les leçons que je tirais aujourd'hui de cette terrible pandémie.
Jean-Louis, que souhaiterais-tu rendre sacré?
Comme un certain nombre de tes interlocuteurs l'ont fait, autrui, sa personne. Mais ça n'est pas tous les jours facile. L'humanité se comporte comme un macro-organisme qui n'arrive à coopérer qu'en se divisant. C'est la leçon de l'histoire. Il y a des groupes hostiles qui se forment, même pour coopérer. Et je crois que pardonner à l'ennemi est le plus grand et le plus difficile des commandements divins.
Merci.
Merci à toi.
Retrouvez-moi un jeudi sur deux pour entendre parler des gens de tout horizon. J'imaginais ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast, et laisser une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.